bienvenue au Politico épisode technique. Je suis accompagné de Nicolas.
C'est le meilleur moment que j'attendais.
Le ever meilleur.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas. Ça va Nicolas? C'est le Nicolas.
Le Nicolas. Oui, c'est très bon. On s'est parlé l'automne passé, était passé du 20%, qui est une notion chez Google qui permet de s'investir dans des projets connexes à notre travail latéral, pas genre complètement outreach, mais quand même dans ce genre de choses-là. Tu m'avais dit à ce moment-là, hey, j'ai commencé quelque chose, c'est tout neuf, et il allait avoir une suite, puis donc,
suite. OK, j'ai commencé ça au mois d'août. C'est un 20% comme OPM. Donc, c'est quoi un OPM? C'est un Outbound Product Manager. Un 20%, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends 20% de ton temps. Bon, dans les faits, c'est 120%. Là. C'est 20% de plus que ce que tu fais normalement, pas 20% à l'intérieur de ce que tu fais. Mais tu prends 20% de ton temps puis tu l'investis à faire quelque chose qui est bénéfique pour l'humanité ou pour la compagnie. Bon, moi, mon 20% que j'ai trouvé, c'est comme OPM, un Outbound Product Manager pour GCS, Google Cloud Security. Donc, c'est la branche de cybersécurité de Google. Parce que rappelle-toi, moi, je suis un généraliste chez Google. Je couvre tous les produits. Mon background, c'est la cyber. Mais je couvre tout. Mon 20%, c'est directement avec GCS, Cloud Security. Donc, c'est essentiellement Chronicle, donc SecOps, le nouveau nom SecOps. C'est Security Command Center Enterprise. C'est ReCAPTCHA, Chrome Enterprise Premium. Je pense que ça fait pas mal ça. Ça fait pas mal de trop. Donc, c'est les produits agnostiques cloud, donc qui ne sont que tu n'es pas obligé d'être un client de Google Cloud, donc d'avoir tes workloads en compute, d'avoir tes bases de données ou même d'être client de Gemini. Donc, c'est les produits de sécurité qui sont autonomes à l'intérieur de Google. Ah oui, le dernier que j'avais oublié, c'est Mandiant. Tous les services professionnels, les services gérés.
C'est une grosse acquisition quand même.
C'est une
même,
très
là.
Grosse acquisition qu'on a faite il y a maintenant 3 ans.
Donc, est-ce que je cherche l'intégration est relativement complétée? Là.
Oui, exact. Ça fait 3 ans, c'est réglé. L'équipe de Mandiant est pleinement opérationnelle. Il y a une énorme équipe de Mandiant à Montréal. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Tu sais, tu parles souvent avec Camille. Camille fait partie de Mandiant. Donc, moi, mon 20%, c'est Outbound Product Manager. C'est quoi un outbound? Donc, c'est le pont entre les gens de produits, donc les product managers. C'est le pont entre les gens de produits, les gens de marketing, les gens du terrain, c'est-à-dire les vendeurs, les customer engineers, et les clients. Et les firmes d'analystes, donc les Gartner, les Forrester de ce monde. Donc, prends toute cette gang-là, attache-les ensemble, puis mets quelqu'un responsable de gérer tout ce blend-là, c'est ça le OPM. Donc, j'ai commencé ça au mois d'août. Je trouve ça super le fun. Des OPM, il y en a plusieurs chez Google à temps plein. Donc, c'est leur rôle à temps complet. Il y en a un pour... En fait, il y en a plusieurs pour SecOps. Il y en a pour SCCE et compagnie pour chaque autre produit. Bon, j'ai commencé ça au mois d'août. Tranquillement, pas vite. J'ai fait quelques projets. Je les ai aidés ici et là, tu sais, pour qu'eux, ils comprennent un peu où est-ce que je pouvais les aider, puis moi, où est-ce que je pouvais amener de la valeur. Puis récemment, puis c'est un peu ce qu'on va jaser aujourd'hui, récemment, on a annoncé, le 4 février, on a lancé un nouveau produit, un nouveau feature à l'intérieur de SecOps, qui est le Data Pipeline Management. Donc, c'est quelque chose qui manquait dans SecOps, mais qui n'était pas officiellement partie de la plateforme, qu'on a formalisé, on l'a annoncé cette semaine, c'était de ça que je voulais te jaser aujourd'hui.
Oui, et justement, t'as ton rôle d'OPM là-dedans et t'as le nouveau module qui a été mis en place. On va commencer par le nouveau module pour que peut-être rattacher ta fonction par-dessus après. Qu'est-ce que ça vient rajouter à Chronicles ou SecOps maintenant qui manquait à ce produit-là pour l'aider à cheminer et à continuer à être top marché? Là.
Fait que SecOps, aujourd'hui, c'est essentiellement un SIEM SOAR. C'est la plateforme de sécurité opérationnelle que Google Cloud vend. Pas obligé d'être client de Google, tu peux avoir SecOps et un environnement 100% AWS, on-premise ou Azure, si ça tente, c'est correct. C'est un SIEM. Comme Splunk, les compétiteurs, quand tu regardes le landscape, là, c'est Splunk, XIM, les autres SIEM là, populaires dans le marché. Donc, c'est vraiment, on joue dans ce terrain-là. Là où SecOps se différencie, c'est vraiment l'utilisation de l'AI à l'intérieur de la plateforme et l'utilisation d'infrastructures de Google. Comme on a une capacité phénoménal d'ingestion de données, autant au niveau du stockage qu'au niveau du network. StackUp, c'est ultra efficient à gober de la donnée, donc moins cher, plus optimal. Et le fait qu'on développe nos propres modèles aussi, ben StackUps a son propre modèle de LLM de sécurité qui est SecLM, donc qui est utilisé pour faire du triage, faire de l'analyse, puis bientôt être capable d'agir comme un agent de SOC, c'est-à-dire pleinement autonome, capable de gérer l'incident, fixer, patcher, puis faire le recovery aussi. On s'en va dans cette direction-là. Fait que bref, ça, c'est les différenciateurs de SecOps. Ce qui manquait, c'était une façon automatisée puis intégrée de collecter les logs. Si tu as un SIM, là, le nerf de la guerre, c'est les données. Il faut que tu les collectes quelque part. Ton SIM ne va pas opérer par la magie de la télépathie. J'aimerais bien que quelqu'un invente les réseaux télépathiques.
Ça serait bien, mais non.
C'est ça. En attendant d'avoir un réseau télépathique, il faut collecter les données quelque part. Fait que, évidemment, il y avait plein de méthodes de collecter des données. Chronicle et SecOps aujourd'hui, ils avaient plusieurs méthodes. C'était généralement des outils de tierce partie. C'était pas connecté nativement. Ou c'était du open source, là, un FluentD quelque part que tu installes sur une VM Linux. Mais là, le défi de ça, c'est que tu as beau installer des agents open source un peu partout, comment tu gères ça? Comment tu patches ta VM Linux qui supporte l'applicatif? Tu as toute la gestion des patchs. Il y a une complexité à gérer les points de collection des données. Là, je ne te parle pas de la complexité de connecter les logs là, des services SaaS. Tout, c'est généralement relativement facile.
Ton API, puis ça, c'est assez simple. Mais
ouais,
je connais la douleur de quoi tu parles. Tous les endpoints bizarres, tous les systèmes qui génèrent des logs avec aucun API pour aller récolter tout ce qui est dans des fichiers texte, ouais, dans des bases de données weird, parce que genre avant, on pensait que c'était une bonne idée, mais ça, c'est une base de données. dans des gros XML pas beaux, dans des JSON. Ouais. Name it, t'as à peu près de tout et n'importe quoi. Puis ça, c'est bien un endroit où il n'y a aucun standard, puis tout le monde s'invente, tout le monde fait des affaires. Là.
C'est ça. Fait que, tu sais, je vais te donner un super bon exemple. T'as une compagnie qui roule SAP on-premise dans ses data centers. Une compagnie qui fait mettons, dans le commerce de détail ou dans la santé. Plus, ça utilise SAP pour whatever. Mais ultimement, toi, si tu veux surveiller les événements de cybersécurité de l'environnement SAP, qui est le cœur de ta business, faut que tu collectes tout. Oui, tu vas collecter les logs des VM. Ça, c'est facile. Là, après, il faut que tu collectes le log applicatif. Des fois, dans le log applicatif, il y a des événements de journaux qui contiennent des données que ça ne te tente pas tant d'avoir. Parce que du moment que tu commences à les collecter, tu grossis ton scope SOX, HIPAA, PCI, name it, parce que c'est de la donnée confidentielle que tu es obligé de gérer de par le journal, l'entrée de log qui vient de sortir. Toi, tu as besoin de l'entrée de log. Tu en as besoin dans ton SIM parce que tu vas corréler l'événement avec ça d'avant.
Mais ça vient contaminer un contexte réglementaire, comme tu mentionnais, sur ton log. Ce que tu ne veux pas, parce que généralement, tu ne veux pas ramener. Déjà, PCI, ça fait une douleur. Les gens, ils n'aiment pas ça. Déjà, les choses étaient assez difficiles. Tu ne peux pas ramener cette bulle-là, justement, que les compagnies ont géré une bulle pissée à côté, justement, pour ne pas avoir à contaminer le restant de l'infrastructure. Tu ne peux pas, tu ramènes des logs, tu ne peux pas ramener ce contexte réglementaire-là avec toi. Tu veux le laisser dans sa bulle. Là.
C'est ça. Fait que là, comment tu fais? T'sais, il faut essentiellement que tu ailles dans chaque point de collection de logs, que tu comprennes le format de chaque log. Puis là, format de Windows, Linux, qui est relativement facile. Après ça, tous les gros vendors en technologie, c'est relativement facile. Mais là, quand tu arrives dans de l'application sur mesure qui émettent des logs d'accès de tel record a été modifié de telle façon par telle personne, ça demande énormément d'analyse pour pouvoir juste prendre l'entièreté du payload puis dire, c'est-tu quoi, le huitième byte, ça, là, quand tu vois un numéro de carte de crédit, là, hache-les, remplace-le, masque-le, parce que je le veux pas. Parce que si j'ai le malheur de l'avoir, il va se ramasser dans mon SIM. S'il se ramasse dans mon SIM, que soit ton SIM vient du scope PCI, avec tout le focaillage qui va venir avec.
Et tout le normatif, les QC qu'on devra venir, toute la lourdeur de conformité associée à ce genre de choses-là, que tu ne veux pas, parce que ça va contaminer Le scope conformité, puis c'est cher, c'est lourd.
C'est ça.
Puis c'est pas toujours utile. Puis si elle est utile pour l'univers des cartes de crédit, fine. Mais tu veux pas avoir à gérer ça dans d'autres scopes parce que l'utilité n'est pas tout à fait prouvée encore.
Non, c'est exactement ça. Fait que là, si je résume ce qu'on discute là, là, tu as un SIM. De ton SIM, tu as besoin de collecter des logs. Donc, tu as besoin de déployer des agents. Donc, ça en soi, déployer et maintenir les agents, c'est un problème, c'est problématique. Deuxièmement, c'est les données qui sont. Oui, tu vas avoir des parseurs à l'intérieur de SIM. Toutes les SIM ont des parseurs. Nous autres, avec SecOps, on en a au-dessus de 800 des parseurs. Mais à la fin de la journée, tu ne veux pas collecter la donnée brute, là, celle qui arrive, des fois, tu n'en veux pas. Ou il y a une partie que tu veux, l'autre partie, tu n'en veux pas. Comment tu fais pour la transformer? Fait que ça, c'est des problématiques qu'il y a. Généralement, c'est des problématiques de gestion. Il y a un coût associé à ça, à gérer ça, du temps. Comment tu gères tout ça? Fait que ce que Google a lancé le 4 février, c'est un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Bindplane. Bindplane, eux, leur job, c'est fabriquer cette plateforme d'agents de collection-là. Puis le partenariat qui a été annoncé, que c'est tout nouveau à l'intérieur de SecOps, c'est que si jamais tu es un client de SecOps, tu sais, il y a plusieurs tiers à SecOps, mais si tu es un client de Enterprise ou Enterprise Plus, tu reçois automatiquement des licences incluses sans frais additionnels de Bindplane. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à la console de Bindplane. Tu vas pouvoir déployer des agents. Puis selon le tiers où est-ce que tu es, que tu sois Enterprise ou Enterprise Plus, si tu es Enterprise Plus, l'Enterprise Plus va te débloquer la fonctionnalité qui permet de transformer la donnée, de la masquer, de l'altérer, puis de filtrer les données que tu veux rentrer dans ton SIM.
Ben, c'est d'autant plus important. Un, tu évites la contamination, comme tu mentionnes. Et l'autre problème qu'on a avec les logs, c'est que le all-in, là, je vais tout prendre puis je vais gérer ça après. C'est pas viable autant en termes de coûts parce que ça a des coûts quand tu le remontes vers ton SIEM. De un, puis c'est pas utile, ça rajoute un bruit qui est inutile. Fait déjà d'être capable de filtrer ou de remonter seulement ce qui est pertinent est un avantage très, très important pour pas fatiguer tes moteurs puis pas fatiguer tes gens aussi. Parce que là, il va y avoir beaucoup trop d'informations. Puis quand on commence à faire du hunting, si tu commences à chercher dans une forêt non nettoyée, ben, c'est beaucoup plus complexe que dans une forêt qui a déjà été pré-préparée ou enrichie en amont pour améliorer ça.
Puis, ultimement, ta performance aussi va être impactée. Parce que si tu ingères, 100 pétabytes ou 100 terabytes de logs par année, que là-dessus, il y a un certain pourcentage de logs qui ne sont pas du ressort de la cyber, qui ne te seront d'aucune utilité pour ton threat hunting ou pour corréler avec ton threat intel ou être capable de faire quelque chose d'utile avec. Et en plus de ça, qui sont dommageables pour ta compliance, ben si ce 10-15% de données-là, tu es capable juste de ne pas le rentrer, ben ce que ça cause, c'est un, ton coût est plus bas, fait que tu en rentres moins, le stockage est plus bas. La performance est impactée aussi. Parce que si tu as des requêtes, si ça prend moins de temps à scanner, moins de données, ben veux pas, la performance après de tes recherches va être meilleure.
Oui, tout à fait. Puis ça revient dans le même esprit que le. Puis ça, je l'avais déjà mentionné, je pense, dans le passé. Le nouveau du threat hunting, c'est de ramasser des informations, des IOC, puis juste les mettre là dans ton système, puis jamais les nettoyer. Le problème, c'est que ça s'encrasse ton système. Fait que faut que tu nettoies régulièrement. Fait qu'il y a une espèce de cycle de vie que les gens doivent commencer à faire et qu'ils n'ont jamais voulu faire avant. Notamment les IOC, on était un exemple. Mais le fait des logs aussi, parce qu'avant, on faisait juste all-in, on ramasse tout, puis on va gérer après. L'expérience du temps nous montre que tout ça va nulle part. On amène de la pression sur les gens opérationnels, sur les analystes, qui vont partir en burn-out, qui ont trop de travail, ça se peut pas. Fait que la technologie, justement, doit nous aider, puis cet outil-là, clairement, est un avancé pour nous aider à réduire cette pression-là inutile sur les équipes opérationnelles.
Ce que tu dis, c'est vrai, parce que c'est drôle, cette semaine, il y avait un événement de sécurité à Montréal dans les bureaux de Google, puis j'ai revu un de mes anciens amis de mon ancienne vie, Jonathan Moisan, je le salue. Puis on parlait ensemble justement du lancement de Bindplane, de ce partenariat-là avec Bindplane. Puis Jonathan, aujourd'hui, lui, il travaille chez SADA, une compagnie, un de nos partenaires cloud, puis il fait de l'intégration de Chronicle ou de SecOps chez des clients. Puis récemment, il y a eu un dossier dans une grande banque où est-ce qu'il faisait l'intégration de SecOps. Puis il me dit, écoute, Nix, Bindplane, ça va vraiment bien. Elle a accéléré le temps pour déployer la solution. Parce que veux pas, autrement, c'était quoi qu'il y avait avant? Ben avant, c'était soit du open source ou soit des trucs que tu devais scripter manuellement, gérer manuellement, déployer manuellement, maintenir manuellement. Puis les capacités en termes de filtrage de données, parce que là, veux pas, lui, son client, c'était une grande banque. Ben veux pas, tu as certaines régulations que tu peux pas te sauver. Puis à cette échelle-là, c'est énormément d'argent si tu es capable d'être très sélectif sur les données que tu rentres et que tu ne rentres pas. Donc, ce qu'il me disait, c'est que ça avait beaucoup d'impact, la venue de Bindplane dans son écosystème. Donc, il y a vraiment une grosse valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'on pouvait faire autrement avec SecOps, mais que là, maintenant, le partenariat avec Bindplane qui fait en sorte que c'est vraiment haut, c'est ouvert. Là, du moment que t'as la subscription Enterprise ou Enterprise Plus, tu peux ouvrir l'agent, déployer ça, puis faire la configuration.
Ça, c'est la première partie, c'est le produit dans lequel tu as contribué. Ton rôle d'OPM là-dedans et comment ton 20% s'est acté, un, pour les aider, puis ton OPM, là, tu devais parler à Gartner, tu as dû parler à plein de monde, tu as dû rattacher toute cette foule-là, puis réussir à les ramener dans un contexte.
Ce que tu dis, c'est vrai, puis moi, c'était comme la première fois qu'on me demandait à l'intérieur de mon rôle de OPM, d'avoir un gros apport. Tu veux pas, il y a eu le ramp, là, j'ai eu des petites choses, je les ai aidés à quelques initiatives. Pour en venir au rôle d'OPM, tôt ou tard, ta job, c'est de s'assurer que le marché adopte le produit, que ça soit en phase avec les analystes, avec l'interne et l'externe. Fait que ce que j'ai fait dans ce dossier-là, c'est vraiment construire toute la documentation possible pour être sûr que les partenaires de Google Cloud ainsi que les Customer Engineer de Google Cloud, comme moi, soit capable de comprendre, un, c'est quoi, comment ça marche, comment le présenter au client, c'est quoi les outils que les Customer Engineers ont pour pouvoir faire des preuves de concept. C'est quoi, dans le fond, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas? Qu'est-ce que chaque tiers peut faire, peut pas faire? Donc, j'ai dû créer de la documentation interne, puis la présenter aux Customer Engineers dans des sessions de office hour ou pour être certain que les gens comprennent c'est quoi le défi que tous les employés de frontline, ce qu'on appelle les frontline sales chez Google, on a, c'est Google vend pas trois produits, là, c'est des centaines de produits. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir juste l'essentiel, comprendre c'est quoi que ça fait, c'est quoi le problème que ça règle chez les clients? Puis comment on est capable, c'est quoi les ressources qu'on a pour pouvoir aider nos clients à régler ces problèmes-là. Fait que tu sais, moi, comme OPM, ma job, c'est vraiment de comprendre ça. Puis le fait que je travaille comme Customer Engineer chez Google Cloud, je comprends exactement ce que les directeurs de compte, les ingénieurs de Google discutent avec leurs clients à chaque semaine. C'est quoi leur concern? Le défi, c'est vraiment, c'est quoi le gap entre ce qui se passe dans la tête de nos clients et ce qui se passe dans la tête des gens qui créent les produits. Il faut réconcilier ça, être capable de s'assurer que la discussion entre les deux fonctionne bien. C'est que tant l'équipe de produits comprenne ce que le marché veut, ce que le client comprend ce que le produit fait.
Ben, c'est ça, tu mentionnes justement, tu as écrit la documentation, les choses en appui justement pour aider les équipes. Donc, que la communication de l'intérieur vers l'extérieur soit faite, mais de ton expérience, j'imagine contribuer à l'équipe aussi pour améliorer le produit ou diriger le produit vers quelque chose qui te répondait à un besoin.
Essentiellement, quand on était dans des rencontres à l'interne puis qu'ils parlaient du produit puis comment le vendre, les gens de produit focusent énormément sur les caractéristiques du produit. Moi, dans mon œil de gars de terrain, je focus énormément sur le problème que le client a. Mais c'est pas clair comment le produit règle le problème ou que le problème peut être réglé par le produit. Fait que c'est vraiment juste de réussir à trouver le bon alignement. Puis ça, à moins que tu aies été en avant de la clientèle, c'est très difficile quand tu es très, très concentré sur le produit de comprendre vraiment, OK, mais tu règles quoi? C'est bien le fun, là, le feature XYZ ou le bouton bleu, le bouton rouge, le bouton vert. Là, ça, c'est bien extraordinaire. Mais à la fin de la journée, là, c'est quoi le problème que tu vas régler? Puis c'est ce que j'aime beaucoup dans mon 20%, c'est vraiment d'être un peu le porte-parole des clients vers les produits. Puis ultimement, ben, tout le monde gagne là-dedans.
Ben oui, parce que c'est très difficile de réconcilier les deux, parce que souvent, on a des produits qui se cherchent un problème. Et on va le trouver plus dans des startups, là, ce genre de situation-là, il y a quelqu'un qui a une idée, puis finalement, il cherche un problème à régler avec son idée. Là, ce qui n'est pas nécessairement un bon modèle d'affaires, là, mais ça, à qui veut bien entendre, écouter. Le réel, c'est ça, c'est d'arriver à ça. Puis je trouve ça le fun de voir qu'il y a ces structures-là chez Google, notamment, de permettre justement de ramener avec des problèmes réels et de réconcilier avec probablement un roadmap produit qui va justement diriger pas juste sur le plaisir du produit de le créer, mais de créer un produit qui va amener de la valeur vers le client.
Ouais. Ben, là où je pourrais peut-être ajouter un peu de nuance, c'est les gestionnaires de produits, ils ont pas tendance à... Ils font pas des features juste pour faire des features. T'sais, ils font des features, ils veulent régler le problème. Moi, mon point, c'est pas tant de est-ce que le problème qu'ils veulent régler, il est bon ou pas bon. C'est vraiment juste, parce que c'est sûr qu'il est bon, c'est qu'il y a des gens qui l'ont demandé. Que ce soit des firmes d'analystes qui disent « Avez-vous ça comme votre compétiteur là? » Tu sais, essentiellement, le marché demande certaines fonctionnalités, puis après ça, le client demande de régler des problèmes. Moi, ce que j'aime du rôle d'OPM, c'est de dire maintenant, comment on prend cette fonctionnalité-là qu'on la transforme en problème résolu. Parce que oui, c'est le fun, le feature, il règle. Il y a tout le temps des bons features.
Non, mais c'était pas une critique sur les features, mais c'est juste parce qu'il y a des features, des fois, qui n'arrivent pas nécessairement à résoudre mon problème qui ne viennent pas cocher la case que j'ai besoin de cocher ou qui n'arrivent pas à réduire le temps que j'ai investi dans un problème qui m'affronte. Puis en même temps, il y a probablement autant de besoins que de clients. Là, fait que tu sais, de mixer les deux, puis cette capacité-là de réussir à ramener le plus de besoins possibles ou le plus de problèmes possibles par rapport à un feature est probablement quelque chose de très important, là, de très compliqué. Là.
Mais ce que je trouve difficile, ce que j'aime, puis je pense qu'avec les années, j'ai développé une bonne aptitude à le faire, c'est vraiment à traduire. Puis là, je pense à un de mes chums qui, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il a peut-être 15 ans, il me disait tout le temps, Nick, tu focuses trop sur la tech, c'est quoi le problème que tu règles? Puis là, je le remercie 15 ans plus tard parce que je pense que je focus beaucoup plus sur le problème que sur la techno. La techno, n'importe qui peut régler. Mais après ça, les problèmes, tu sais, c'est comment tu règles ça ou comment tu t'arranges pour que les clients comprennent? Parce qu'à la fin de la journée, nous autres, on est là puis on est convaincus qu'on a la meilleure techno. Je suis pas mal sûr qu'on l'a. Je l'ai vu, tu sais, j'ai vu avant d'être chez Google, je voyais d'autres choses. J'ai eu une vie avant Google, je suis capable de comparer. Mais maintenant, comment tu communiques ça au marché? Comment tu communiques ça dans le langage compris par les clients? Tu sais, avant d'avoir Bindplane, j'ai fait un déploiement de Chronicle il y a peut-être 3 ans chez un client au Québec. Puis, la collecte de logs était un enjeu, mais était un petit enjeu parce que ce client-là avait essentiellement un seul data center où est-ce qu'on collectait les logs. Quand tu n'as rien qu'un data center, c'est relativement facile. On avait un log collecteur, on avait pris FluentD, on prenait tous les logs, on pitchait ça à Chronicle. Mais ça, c'est relativement simple. Puis ce client-là, à ce moment-là, il n'y avait pas de données confidentielles. C'était de la télémétrie de système opérationnel essentiellement qui pouvait se ramasser là. Aucune PII, aucune donnée critique. Il n'y avait pas d'enjeu de compliance. Puis il y avait essentiellement un ou deux log collectors. Mais ce que Bindplane règle, c'est là, qu'est-ce qui se passe si j'avais pris ce même client-là? Mettons que tu as 25 data centers, que tu as 3 cloud providers, 4, mettons avec Oracle, t'en rentres 4. Après ça, tu as des branch office qui ont des serveurs on-premise. Tu gères ça comment? Les log collecteurs.
Ouais, ça devient difficile. Puis ça, c'est le cas que tu mentionnes est intéressant aussi, au sens où les clients, quand ils commencent jour 1, ils ont avec des logs, des choses comme ça, effectivement, ils vont aller dans un sens très simple. OK, on fait ça, voici le paramètre. La boîte est simple. T'as coup, ouais, mais maintenant, on aimerait ça de plus. Ouais, mais maintenant, le bureau là-bas, maintenant, les choses, les scopes vont changer. Puis on est dans un environnement, un, qui est beaucoup plus réglementé, donc les scopes vont changer nécessairement. On regarde en Europe, ils s'amusent à changer les scopes constamment, fait qu'ils aiment beaucoup ça. Oui. Fait que cela va nous amener dans des réflexions différentes. PCI avance, on riait de PCI, mais ça change, donc le type de log change. On arrive dans des milieux réglementés comme le financier. Bien, ça aussi, les scopes vont en tendance à changer, les réglementations changent. Donc, d'un jour un, on arrive dans la chose, ouais, là, c'est facile, le data center. 3 ans plus tard, ça ne veut pas dire qu'on est dans le même dans la même simplicité. Ça. Là, ça évolue. Là.
Oui. Fait que ce que j'aime beaucoup de mon nouveau 20% project, c'est vraiment ça. C'est un, je suis à l'avant-scène de la sécurité parce que je suis très proche du produit. Je vois tous les lancements, toutes les features qui s'en viennent. Puis ce qu'il me demande, c'est de communiquer essentiellement ce que le terrain veut. Comment on est capable de s'assurer pour que les clients, les analystes, les partenaires comprennent c'est quoi cette feature-là, c'est quoi la valeur de cette feature-là, puisque ça va changer dans la vie de tous ces gens-là. Je trouve ça pas mal passionnant. Puis là, dans le cadre de Bindplane, ce que je faisais, c'était beaucoup d'enablement interne. Là, on va lancer bientôt aussi des sessions à Google Next qui s'en vient bientôt au mois d'avril. On va pouvoir parler un peu de comment on aide les clients à adopter ça. Beaucoup au niveau des partenaires, comment les partenaires peuvent accélérer les déploiements de SecOps avec cet agent-là. Donc, tu sais, ça ne se limite pas juste à faire de l'enablement. Ce que j'aime de mon 20%, c'est que ça couvre vraiment plein de choses.
Très intéressant. Mais ce 20%-là, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a une fin prévue ou c'est vraiment all-in jusqu'à temps que tu sois tanné de faire 120% de ton temps sur ce genre de choses-là?
C'est vrai que c'est 120% parce que vois-tu, demain dimanche, là on est samedi jusqu'à quand on enregistre, demain dimanche, ma fille va au volleyball et j'ai prévu travailler sur mon 20% toute la journée pendant son tournoi de volleyball. Donc, la date de fin. Officiellement, c'est un engagement d'un an que j'espère qu'il va se renouveler. Mais tu sais, essentiellement, c'est en fonction de ce que moi, je suis capable d'amener. Puis ce que moi, j'en ressors aussi. Moi, j'apprends énormément. Honnêtement, d'être dans les méandres du développement de produits, j'aime énormément ça. J'aime beaucoup. J'aime savoir un peu comment ils réfléchissent parce que c'est très facile comme client de chialer sur les produits. C'est très facile comme customer engineer d'aller taper sur l'équipe produit en disant hey, « comment ça que tu n'as pas telle feature? » Mais la réalité, là, c'est que dans le développement de produits, ils savent ce qui manque, les gens de produits, parce qu'ils ont des compétiteurs, ils ont du feedback. Maintenant, c'est une question de priorisation. Il n'y a pas des ressources infinies. Fait que si moi, je suis capable d'aider le produit à être meilleur en étant la voix du client, la voix des ventes, la voix des analystes, moi, c'est un peu ça que je vois. Puis, je vois pas de fin à ça parce que c'est ultra palpitant. C'est un environnement qui est ultra dynamique. Puis je pense que ça va continuer de changer parce que SecOps est en termes de feature parity par rapport à la compétition, par rapport à Splunk, par rapport à XSIAM, par rapport à QRadar, est dans le coup. Là. T'sais, on est plus dans un mode où on est le new player. On est vraiment dans un mode où là, on est en train de transformer. Il y a des choses qu'on fait que personne ne fait. Puis il y a des choses qu'on fait que personne ne peut faire. Comme utiliser les AI aussi nativement que ce que SecOps fait par rapport à notre compétiteur qui essentiellement prend des modèles fondationnels puis met une belle couche en avant. T'sais. Nous, on a vraiment un modèle propre à nous. Ça prend des ressources incroyables à faire ça. Fait que bref, ce que je voulais dire, c'est l'environnement est constamment en train de changer. Puis ce qu'on voit avec les AI, on en a parlé tantôt ensemble, qui s'en vient avec les défis liés à l'AI par rapport à SecOps. C'est le fun d'être au cœur de ça, puis je souhaite que ça dure longtemps.
Oui, puis ça revient un peu, puis ça donne un peu la façon de fermer la boucle, parce qu'on quand on avait parlé, je pense en juillet août dernier, on avait juste parlé le côté essentiel de ça, le côté autant pour l'organisation, autant au personnel, l'ajout, puis là tu confirmes réellement tout ce que ça a comme élément. Moi, je l'acte personnellement de façon différente parce que je ne suis pas dans une grande entreprise, mais je me mets en contact justement avec ce genre de choses-là sans faire de 20%. toute façon, je travaille 200%, fait que ça revient au même. Mais je suis en contact avec ce genre de choses. Puis je trouve ça essentiel, puis pour revenir sur ce point-là, de s'enrichir de façon transverse. Parce que c'est ça que ça l'amène. Parce que tu fais ta job, puis ensuite, de façon transverse, tu as d'autres éléments que tu vas capitaliser, que tu vas améliorer, que tu vas enrichir. Ton chose qui vient sur ton chose primaire aussi. Là.
Oui, exact. Parce que ultimement, lorsque j'arrive dans des discussions, je connais mieux le produit. Puis ça m'a permis d'avoir un autre point de vue parce que développer un produit, là, être un PM, que ce soit pour de la base de données, de l'AI ou de la sécurité, c'est les mêmes enjeux. T'as des ressources limitées pour développer des features que le marché veut. T'as un certain positionnement par rapport à où le marché est versus toi. Puis tu dois prioriser. Tu dois faire la bonne chose. Puis si tu investis dans la mauvaise direction, ben, tu veux pas le produit. Sera pas aussi bon qu'il aurait pu l'être. Fait que, tu veux être vraiment au cœur de ça pour pouvoir faire le bon produit, pour le bon régler le bon problème. Ça, j'adore cette situation-là en ce moment.
Ça doit être super trippant. Fait, je te remercie énormément de ce partage-là parce que justement, ça l'amène un angle inspirant sur comment on peut aborder, les carrières en cyber, comment on fait les choses. Les contributions qu'on a, donc d'aller chercher, même si on n'est pas chez Google, mais d'aller chercher peut-être un équivalent ailleurs de choses transverses qui vient alimenter notre passion.
C'est très payant la curiosité à long terme. Puis je te dirais que des fois, tu trouves des choses en dehors de ta job. Ça, on ne sait pas, ça pourrait être ma prochaine carrière d'être product manager, je ne sais pas. Mais en ce moment, ça me permet d'apprendre. Puis je pense que tant que tu apprends dans ta job, tu vas rester motivé, puis tu vas rester emballé, puis curieux. Fait que ça.
Ouais, mais excellent. Merci énormément de ce partage-là. Je trouve ça super intéressant.
Hey, merci, Nicolas. À la prochaine.
Merci, salut. Nicolas. Hein, Nicolas?
Salut.